Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein?
Les grandes gueules du sport.
Tous les chemins mènent à Rome, dit le vieil adage français. Non, tous les chemins mènent à Paris.
Jean-Christophe Drouet.
Eh oui, le grand début du Tour de France, c'est aujourd'hui. Évidemment, c'est un moment magnifique que vous allez vivre durant 3 semaines sur RMC en intégralité. Midi 30, midi. 9h30 midi, c'est votre émission Les Grandes Gueules du Sport de samedi et dimanche. On va en parler dans quelques instants de ce Tour de France, toujours avec Pascal Dupraz, Cyril Linette, Ludovic Duchesne, Fred Weiss, Tadej Pogacar et le grandissime favori. Le suspense est-il déjà mort? Nous serons en direct de Florence, le lieu du départ du Tour de France 2024. 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien. Et pourtant, elles vont devoir débattre sur un sujet avec leur conviction, avec leur cœur, avec leur émotion, comme toujours. Et puis 11h45, les GG contre-attaquent. Vous pouvez prendre les commandes de cette émission en proposant un débat. Vous avez 20 secondes pour le vendre maintenant et vous pouvez voter évidemment, chers auditeurs, sur le compte Twitter, le compte X des Grandes Gueules du Sport. 20 secondes, Fred Weiss, c'est quoi ton débat?
Alors j'avais envie de parler de basket. Alors l'année dernière, on a eu Wembanyama, numéro 1 de la draft, on a eu Koulibaly dans le top 10. Cette année, on a eu Rizaché, numéro 1 de la draft et 2 autres joueurs dans le top 6. Est-ce que la France va écraser le basket mondial dans les années à venir? J'aimerais pouvoir en débattre avec mes collègues.
Ok, c'est la proposition de Fred Weiss, convaincante. Ah, c'est à vous de le dire. Pascal Dupraz.
Ouais, c'est bien Fred, je reconnais, mais je pense que mon sujet est meilleur. Donc j'aimerais qu'on parle de Formule 1 et surtout de la prolongation de Gasly cette semaine chez Alpine. Et j'ai le sentiment qu'Ocon, depuis l'accident de Monaco, a été sacrifié. Trouvez-vous ça injuste ou logique?
Injuste ou logique? Allez voter.
Pascal,
si vous...
c'était nul, vraiment.
Vous choisissez. Hey, moi, je t'encourage, toi, tu me descends. Ah, franchement.
Non, moi, je suis honnête.
Pas d'esprit d'équipe.
Ouais.
Ok. Cyril Linette, ta proposition.
Bah, tout le monde le dit, le road foot est d'un ennui profond, mais absolument profond, je pense, à part la Géorgie. Alors, ça va peut-être s'améliorer à partir des 8e de finale, mais moi, j'en suis pas sûr. Tous les joueurs sont rincés. Le football de sélection devient de plus en plus ennuyeux. Et j'ai envie de poser la question, à qui la faute? Ça va pour moi de l'avocat de Jean-Marc Bosman, on en parlera pour les plus jeunes il y a 30 ans, à Pep Guardiola.
Ok, qui a tué le foot de sélection? Voilà. C'est la question posée par Cyril Linette, vous pouvez aller voter pour lui, Ludovic Duchesne.
Moi je vais être 100% d'actualité, Didier Deschamps a-t-il définitivement perdu la main? Un jeu insignifiant, pas d'équipe type, des remplaçants qui limite n'ont pas envie de jouer, c'était le cas contre la Pologne, un discours de plus en plus musclé, voire blessant, vexant envers ses joueurs, et on l'a senti dépassé sur les prises de parole politiques de ses joueurs avant le match contre les Pays-Bas. A-t-il vraiment passé son temps? J'en suis pas sûr, c'est pour ça que je compte sur vous, on a besoin d'en débattre.
Ok, il veut parler de Didier Deschamps, de l'équipe de France. Peut-être un choix payant de vouloir parler évidemment de ce qui nous concerne en premier plan.
C'est les,
de
les notre débats sont bien, est-ce qu'on peut rester jusqu'à 13h?
On peut rester jusqu'à... Alors, il y a les paris RMC et on a un gros contrat. Ah, je crois que ça va être compliqué. Mais j'aimerais bien, forcément. Vous savez quoi? Il y a celui qui a remporté le plus de GG contre-attaque dans l'histoire des GG contre-attaque. C'est Christophe Cessieux, il est avec nous en direct de Florence. Salut Christophe.
Oui, il fait les grandes gueules. Comment? Depuis 1912.
Je suis le Maurice Garin des grandes gueules.
Il a vu le premier France-Belgique. Le premier France-Belgique de foot en 1904.
Alors, Cyril, tu vois, je voulais être sympa. Je voulais appeler ma team à voter pour ta contre-attaque. Ah, ben, finalement, je vais voter Dupraz. Hein, voilà.
Ah, merci, Christophe.
Christophe, moi, j'ai rien dit. Moi, je t'encourage tout le temps.
Pas tout le temps.
Parce qu'il sait que Pascal a aucune chance.
Bon, en tout cas, Christophe vote Pascal Dupraz. Voilà, vous le savez, mais il a failli voter pour Cyril Linette. Mais bon, il est un peu rancunier. Christophe, tu restes avec nous, on est très heureux de t'avoir dans cette émission comme tous les week-ends. Et puis là, tu es en direct de Florence car tu vas nous faire vivre comme d'habitude. Tu es la voix du Tour de France sur RMC avec déjà l'hélico qui est en place. Merci beaucoup la régie pour ce son. Tu vas être avec nous pour ce débat dans quelques instants. Que l'on va débuter avec cette citation de Jean-Pierre Jeunet qui a dit un jour, la chance, c'est comme le Tour de France. On l'attend longtemps et ça passe vite.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Vingegaard qui s'envole et désormais dans la montée, est-ce que Pogacar va pouvoir réagir? Non, il ne réagit pas, Tadej Pogacar, il laisse Vingegaard s'envoler.
Incroyable, Vingegaard qui est en train de mettre un premier coup, jamais on n'aurait imaginé ça. Pogacar aujourd'hui est peut-être encore en train de prendre le maillot jaune, il passe la ligne top, c'est parti.
Accélération de Pogacar qui accélère, Vingegaard qui se dresse sur les pédales.
C'était parti pour Vingegaard, Pogacar dans la roue qui va être un petit peu court, Vingegaard qui avait démarré, Pogacar qui va placer un compte, Pogacar qui place un compte pour aller partir dans la descente en premier.
Pendant plus de 2 semaines, les deux hommes ne se sont pas lâchés d'une semelle. Et là, à quelques jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Vingegaard est en train de frapper du poing sur la table. Il montre qu'il qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va remporter sans doute dimanche prochain un deuxième Tour de France d'affilée.
C'est donc le grand départ du Tour de France aujourd'hui, départ de Florence, et donc le retour de la saga, vous l'avez bien compris, Pogacar, Vingegaard, deux victoires pour le Slovène, deux victoires pour le Danois, mais un duel déséquilibré. Cette année, le double tenant du titre est dans l'inconnu total après sa lourde chute lors du Tour du Pays Basque. Pogacar, lui, a écrasé le Giro et veut absolument devenir le huitième coureur de l'histoire à réaliser le doublé Tour d'Italie, Tour de France. Depuis quelques jours, une petite musique est en train de monter dans le peloton à l'image de cette sortie de Remco Evenepoel, l'un des outsiders. Pogacar est quasiment inaccessible. La musique, il faut les jetons. Et cette question, le suspense est-il déjà mort? Mais GG, oui ou non, Ludovic Duchesne?
Oh, que non.
Fred Weiss?
Oui.
Vous êtes d'accord parfois, vous tous les deux, ou pas?
Non.
Non.
Rarement, hein. Cyril Linette?
J'en sais rien, mais j'ai envie de dire que non.
Ok, plutôt non. Pascal Duprat?
J'espère que non.
Christophe Cessieux?
Bien sûr que non.
Bien sûr que non. Il nous vend évidemment ces trois semaines. Lui, l'envoyé spécial, lui, la voix du Tour de France. Tu as bien raison, mon cher Christophe. Vous allez entendre les GG dans quelques instants, mais tout d'abord, une première pièce à conviction. Jonas Vingegaard, lui-même, au micro de nos reporters, hier. Comment il se sent, justement? Est-ce qu'il peut gagner ce Tour de France? Réponse.
Pour être honnête, je ne sais pas. J'ai beaucoup travaillé, je ne suis pas en mauvais état. Ça a été un tel accident que oui, d'une certaine manière, tout ce qui se passe à partir d'ici est un bonus. Mais bien sûr que j'espère que ça arrivera et nous verrons.
Voilà, il est déjà content d'être là, notre ami Jonas Vingegaard. Ludo Duchesne, pourquoi non?
Bah parce que c'est l'essor du vélo et que vous pouvez chuter ou être victime du Covid. Ça a été le cas de beaucoup de coureurs ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, avec David Gaudu qui n'a pas pu courir le Tour de France. Donc déjà, par définition, non. Et parce que Vingegaard est là, est-ce que c'est vrai que ces deux-là dominent, ultra dominent le Tour et le vélo ces dernières années, et que psychologiquement, je pense que le Danois a pris un avantage, je dirais pas rédhibitoire, parce que Pogacar est un champion, mais un gros avantage, 7 minutes 29 l'an passé. Je pense que le contre-la-montre de Combloux, Pogacar ne l'a toujours pas digéré. D'ailleurs, il a avoué récemment qu'il avait craqué mentalement, ce qui redonne encore un peu plus de valeur à la victoire de Vingegaard. Donc non, moi j'attends énormément du Danois. Il est là, il n'aurait pas été là, je pense que j'aurais répondu qu'il n'y avait pas de suspense, mais il est là et je pense que tout est possible.
Alors moi je pense que tout n'est pas possible, si on n'est jamais d'accord, donc c'est assez logique, parce que Pogacar, il a mûri, il a grandi, on l'a vu sur Tour d'Italie, il est monstrueux, c'est un carnivore, il veut tout gagner, il est accompagné d'une équipe incroyable qui va l'accompagner jusqu'au bout, alors que Vingegaard, il y a deux inconnus. La première, son état de forme, il n'a pas couru depuis longtemps, évidemment. Alors effectivement, c'est un très grand coureur, et on sait qu'il aura bien travaillé, qu'il sera quasiment prêt, sauf que on a la certitude là déjà. Ensuite, il va courir sans Sepkus, déjà, et sans Roglic. Donc, deux personnes qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé, qui ont fait aussi que Pogacar s'est épuisé à essayer de courir avec lui. Donc, il part avec une équipe moins forte, avec des conditions pour lui qui sont bien plus difficiles et un état de forme qu'on ne connaît pas. Bah, pour moi, Pogacar, il est gagnant.
Ça fait trop et c'est rédhibitoire. Christophe Cessieux, en direct de Florence, pourquoi tu y crois au suspense?
Pourquoi j'y crois? Parce que quand tu regardes le cas de Pogacar, tu te rends compte que lui aussi a quelques petits défauts dans sa cuirasse, à savoir faire le doublé, ce doublé Giro Tour de France. Le dernier qu'il a réalisé, c'était Pantani, il y a 26 ans. Il y a 7 mecs dans l'histoire seulement qui l'ont réalisé. Et il y a un papier très intéressant dans l'équipe ce matin qui explique justement la fatigue mentale après 3 semaines passées sur le Giro. Alors évidemment, il a survolé les débats, mais le plateau était vraiment pas du tout à la hauteur de celui du Tour de France, et on peut pas se baser sur ce qui s'est passé sur le Giro pour définir ce qui va se passer sur le Tour de France. Je pense que Pogacar peut connaître un jour sans, et je pense que Vingegaard va petit à petit monter en puissance. Pogacar a un intérêt, son intérêt principal, c'est d'essayer de faire péter Vingegaard dès le début et dès ce premier week-end. Mais moi, quand tu regardes franchement le plateau, j'ai jamais vu un aussi beau plateau dans l'histoire du Tour de France. Donc tu ne peux pas dire il y a pas de suspense. C'est pas possible. T'as Roglic, t'as Evenepoel, t'as Vingegaard, t'as Pogacar, t'as Yates. En fait, il y a 13 des 15 derniers vainqueurs des grands tours qui sont présents au départ de ce Tour de France. C'est le plus beau plateau jamais conçu par les dirigeants d'ASO et par les dirigeants d'équipes cyclistes. Donc, franchement, se dire à 3 semaines avant l'arrivée sur les tours qu'il n'y a pas de suspense, Fred, si on t'avait dit qu'il n'y avait pas de suspense lors de la finale entre la France et les États-Unis en 2000, ça t'aurait pas fait râler, ça?
Sur mon FM, faire aller. Ouais, c'était vrai pourtant. Hein. Mais c'est, ça m'a
c'était vrai, mais vous.
Mais tu sais, moi, j'écoute le
vrai. Vous finissez à 10 points. Vous finissez à 10 points, Fred. Il y a eu du
suspense. Oui, il y a eu du suspense.
D'accord, mais moi, je te dis que Pogacar va sans doute gagner. Il y aura du suspense.
Donc, on est d'accord. Tu vois, moi, j'écoute le seul vrai spécialiste de cyclisme dans cette émission. C'est Marc Madiot. Marc Madiot, il a dit, il peut gagner le tour sur les quatre premiers jours.
Marc Madiot, Marc nous avait dit que Lenny Martinez, il ferait pas le tour.
C'est que Thibaut Pinot ne le ferait pas non plus l'année dernière.
Franchement, Marc, on va revoir ton contrat.
C'est le plus grand bluffeur de l'histoire, Marc Madiot. Et il a même bluffé Fred Weiss, tellement il est bluffé. C'est le plus grand bluffeur de l'histoire, Marc.
Cyril Linette, le suspense, t'arrives à être convaincu par Christophe, par
Fred? Ouais, complètement. Moi, je trouve que, moi, ce que j'adore dans le sport, ce que je déteste dans le sport, c'est quand il y a un favori qui se détache et dont on sait qu'il va nous ennuyer et gagner pendant trois semaines. Pour moi, l'archétype Miguel Indurain, il va gagner deux contre la montre, point barre.
Il était chiant,
horrible. Ou alors, quand il n'y a aucune hiérarchie et qu'on ne sait absolument pas vers qui se tourner pour commencer à comprendre. Là, on a tout compris. On a deux héros, on a le meilleur coureur du monde, on a le meilleur coureur du Tour de France, en gros, pour schématiser. On en a un qui vient de gagner le Giro et qui peut avoir un coup de fatigue dans la troisième semaine. On en a un qui revient, il y a beaucoup d'inconnus, mais on sait qu'il peut peut-être finir fort. Il y a quatre jours où, effectivement, Pogacar peut faire la différence. Il y a aussi, quand même, un tracé du Tour de France particulièrement original, puisque ça démarre très fort tout de suite, qu'on démarre par la montagne, qu'on finit par un contre-la-montre à Nice, et donc quelque chose de très ingénieux, de très nouveau, compte tenu des Jeux Olympiques. Ça fait quand même vraiment envie, et ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt à ce Tour de France. Un décor planté, un parcours original. Voilà, c'est très, très plaisant à suivre, a priori.
Okay. Oui, mais c'est plaisant à suivre, ça n'a aucun rapport. On sait que Pogacar va gagner. Ça
mais justement, nous, on a envie de prendre du plaisir à regarder le Tour de France.
J'ai écouté Christophe Cessieux qui disait Vingegaard va prendre son temps, monter en température. Sauf que s'il monte en température trop lentement, ouais, sera fini déjà.
Il a 4 jours, mais si dans 4 jours.
Moi, quand j'écoute les spécialistes vélo, ils sont en train de me dire concrètement qu'on a un mec qui est affûté comme jamais, qui veut rentrer dans l'histoire, qui veut faire le doublé, qui ne s'est pas fait depuis 26 ans. Et de l'autre côté, on a un mec qui est dans le doute, qui est moins bien accompagné et qui doit commencer fort alors qu'il ne va pas être capable de le faire.
Ça veut dire qu'il y a la certitude.
Et si Pogacar est en tête au bout de 4 jours, est-ce qu'il va se tenir tranquille sur les 2 semaines et demie restantes? C'est pas dans son
genre.
C'est pas dans son genre.
Il va créer encore plus de différences. Voilà, d'accord avec toi, Cyril, il va créer encore plus de différences.
Ok, Pascal.
J'ai répondu non, tout comme pour Toulouse l'UBB. C'est-à-dire que j'ai envie de vibrer pendant 3 semaines. J'ai envie de monter dans ma bagnole, me précipiter pour écouter Christophe avec ses envolées lyriques. Donc j'ai pas envie de me faire chier.
Je me dis
que le double vainqueur du Tour de France, des deux dernières éditions, quel est son état de forme? Et je me dis que ces deux dernières éditions, tout le monde disait que Pogacar allait gagner. Et malheureusement, pour Pogacar, il a perdu. Donc j'espère que il va y avoir du suspense, d'autant comme l'a très bien souligné Cyril, la fin du Tour de France avec les 3-4 dernières étapes, j'ai vraiment envie que le suspense soit à son comble à ce moment-là.
Et donc je m'imagine.
Et puis alors, contre la montre, tu penses que Vingegaard, il est encore génial. Ah bon, Vingegaard l'année dernière. Non mais le problème c'est que Fred il stigmatise toute ma rancune parce que
Fred.
C'est un pisse froid, voilà. Donc voilà, c'est tout. Je le dis. En plus, je suis pas là, donc je peux le dire.
En gros, on n'a pas envie de vivre la finale de Top 14 qu'on a vue hier. Sur ce Tour de France. On n'a pas envie qu'au bout de 4 jours, ce soit plié.
Pourtant, Fred, il a adoré la finale d'hier soir.
C'est vrai qu'il nous a écoutés. Mauro Gianetti, le patron du AE, le patron de Pogacar. Nous venons de le rencontrer il y a quelques instants et on l'a interrogé évidemment sur son coureur grandissime favori, Mauro Gianetti.
C'est un big challenge, comme on dit. On a mis ça comme objectif pour la saison. On sait que c'est quand même difficile, c'est compliqué, mais côté de l'équipe, on a vraiment bien travaillé. Tadej, ils se sont bien, tous les coéquipiers aussi. Maintenant, c'est du sport. Maintenant, on va mettre toute notre qualité sur la route et on va voir ce que ça donne. Mais c'est bien de commencer le tour avec un bon esprit. Ça sera un grand tour parce qu'il y a des adversaires incroyables. Peut-être un des tours les plus combattu des dernières années, et donc ça va être je me réjouis de commencer ce tour.
Et voilà, Mauro Gianetti qui a dû rencontrer Christophe Cessieux parce qu'ils ont les mêmes arguments à peu près. Christophe, justement, toi le spécialiste, ça peut vraiment être plié au bout de 4 jours? C'est une vraie possibilité?
Oui, il y a toujours cette possibilité, mais enfin, moi j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde parce que je pense qu'il y aura pas d'énormes écarts dès les deux premières étapes. Faut dire qu'il fait très chaud aujourd'hui en Italie. On annonce des températures qui vont jusqu'à 36 degrés. Pogacar n'aime pas la chaleur. Donc, est-ce qu'il va quand même tenter de faire exploser Vingegaard dès les deux premières étapes? J'en suis pas si sûr que ça. Je pensais que ce serait le cas il y a deux jours, mais là, vu les températures, je pense qu'il va peut-être en garder sous la pédale. On rappelle aussi, il y a un autre bémol à apporter à Pogacar. Il l'avouait avant-hier en conférence de presse. Il a été atteint par le Covid il y a 10 jours. Il a été complètement à plat pendant 2 jours et il a repris l'entraînement. Est-ce que cela aura une influence? On ne sait jamais avec ce virus ce que ça peut avoir comme conséquence à plus ou moins long terme. Donc il faudra surveiller ça. Et puis il y a aussi le cas de Vingegaard. Jérôme Pinot le disait il y a quelques semaines. On avait un peu rigolé à son propos. Il disait ouais, mais est-ce que Vingegaard a été aussi touché qu'il le disait. Moi, il était à 2 mètres de moi avant-hier en conférence de presse, je l'ai vu. Franchement, il a l'air plutôt pas mal. Il est affûté comme jamais. Alors, si évidemment, il a eu les blessures qui ont été annoncées par son équipe, ça sera très difficile de tenir les 3 semaines.
Mais s'il y a un peu d'intox.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'intox? Je ne sais pas.
Il
exactement, il n'a pas la pression.
C'est parfait
en
pour
plus.
Lui. Cette année,
en
c'est plus. Parfait.
Exactement.
Et je trouve que Pogacar se perd un peu dans ses déclarations quand il dit qu'il est encore plus fort que Giroud.
Ouais.
Je trouve qu'il n'est pas très inspiré. Il s'est comparé, là, dans l'interview qu'il donne à l'équipe, à un diamant. Il dit qu'il est fabriqué sous pression. Je trouve qu'il en rajoute.
Donc, à assumer.
C'est la guerre psychologique en ce moment.
Ouais, je trouve qu'il en rajoute.
C'est mauvais pour toi.
Ce qui me fait
c'est
dire
pour ça que
craint...
j'aime pas le sport, Ludo.
C'est...
Moi, j'aime les gens qui assument
ma vie, tu
le fait mais... d'être des grands champions. T'es un grand champion, il le dit, il va gagner, c'est tout.
Non, mais je pense qu'il craint vraiment Vingegaard. Et il a raison. Il a raison.
Kevin nous appelle au 32-16. Il veut aider Fred Veil sur ce débat qui est un peu tout seul. Salut, Kevin.
Ouais.
Salut les grandes gueules, salut Fred.
Salut
Kevin. J'aide encore plus Fred, que je vote pour lui pour les GG contre-attaque.
Merci beaucoup.
Tu seras le seul, hein. Tu vas être le seul quand même.
Seul, ouais.
Sur la draft NBA. Au moins,
tu as envie de t'ennuyer pendant 2 minutes.
Et je pense que l'année prochaine, il faut mettre en place aussi la rubrique les auditeurs contre-attaque. Parce que moi, j'aurais mis le sujet Jérôme Cahuzac ou Marc Madiot. Qui est le meilleur joueur de pipo?
C'est une proposition, merci en tout cas. Le suspense est-il déjà mort, Kevin?
Oui, clairement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de match, parce que pour moi, Pogacar, il est sur un nuage cette année. Je pense que le Giro, il n'a pas eu à s'employer. Donc, je pense que par rapport aux historiques des doublés de Giro Tour de France, on ne peut pas comparer, parce qu'il a pu être dans la gestion sur toute la deuxième partie du Giro. Donc, finalement, il va arriver, à mon avis, frais. Les blessures de Vingegaard, moi je crois pas du tout au bluff, et je pense que le type de chute, et de toute façon elle a été vue à la télé, la gamelle qu'il a prise, on s'en remet pas comme ça en 2 mois. On a des exemples les derniers temps, Egan Bernal, même Julian Alaphilippe ou Christopher Froome, c'est le genre de gamelle dont tu te remets pas si facilement. Ensuite, il y a Roglic qui peut éventuellement aller titiller un peu, mais pour moi on est clairement un ton en dessous et c'est pas le Roglic non plus de son prime, même s'il a une équipe quand même solide. Et je pense qu'on aura une réponse pour moi. Je suis pas d'accord avec Christophe. On aura une réponse dès demain, en fait. Parce que il y a un parcours avec notamment les côtes juste avant qu'on va monter 2 fois. J'ai plus le nom. Mais juste avant Bologne, qui correspond clairement aux qualités de Pogacar et pas de Vingegaard. Donc je pense que Pogacar, il va allumer là-dedans. Et là, on va savoir tout de suite si Visma Liseback joue clairement pour Vingegaard ou si on joue la deuxième carte qui est Matteo Jurgensen, le vainqueur de Paris-Nice. Parce que Vingegaard, pour moi, il va sauter dans cette côte-là. Et on va voir si la consigne est donnée à Jurgensen d'attendre Vingegaard ou de suivre Pogacar s'il en est capable. Et donc là, on aura clairement des réponses sur l'état physique réel de Vingegaard. Et
donc on se rappelle demain.
Ouais, on se rappelle demain. On se rappelle demain soir. Et par contre, voilà, là où je veux pas casser non plus le boulot de Christophe Cessieux, ce qui est génial avec le Tour de France, c'est que même si pour le maillot jaune, il y a pas de suspense, on aura toujours des histoires dans ce Tour de France parce que chaque étape est une course en tant que telle, parce qu'il y a les classements annexes avec le maillot à poids, le maillot vert, où il y a toujours des histoires à raconter. On compte sur les coureurs français aussi pour nous faire vivre des belles histoires, même si malheureusement il y en a pas un qui peut jouer le général.
Kevin est en train de vendre le produit de Christophe Cessieux et des RMC. Bravo, merci.
C'est très bien. Je vais t'engager,
ton CV
Kevin.
Pour remplacer Christophe. Envoie ton CV pour remplacer Christophe.
Bah, il m'avait dit qu'il voulait m'embaucher, mais il m'a pas rappelé, donc j'attends toujours
pour le film. J'ai pas eu le budget. Jean-Christophe Drouet m'a pas filé le budget, qu'est-ce que tu veux.
Il m'a fait la même chose, j'ai donc décidé de prendre le pouvoir directement. Christophe, il faut rappeler, 14h, 18h, tous les jours, les étapes en intégralité, ça commence dès aujourd'hui avec Florence Rémini. Hein, donc c'est vraiment les étapes en intégralité avec toute la Dream Team. Hein.
En intégralité, et puis à la radio numérique, hein, Ludo, il va vendre son produit lui aussi. La radio numérique que vous pouvez suivre, là, ça commence encore plus tôt que chez nous. Ça commence à midi
ouais.
Jusqu'à 14h, ensuite le direct, ensuite ils reprennent l'antenne. Bref, de 14h à 20h, si vous aimez le vélo, vous allez être servi avec une Jérôme équipe Pilot. De folie.
Exactement, la radio digitale 100% route à partir de midi, là, donc dans 33 minutes, ça débute. Et puis après, il y a l'after course à partir de 18h jusqu'à 19h, évidemment, l'étape en intégralité sur RMC. Bref, on a de quoi se régaler.
Et si vous voulez avoir des avis tranchés, ça va plaire à Pascal, Jérôme Pinault, qui vraiment.
À peine.
J'avais
pas du tout blanc ou noir, lui. Non.
J'avais déjà remarqué. Oui.
Il fait pas faire attention Jérôme. Avec Jérôme Pinault, il pense que la terre est plate quand même.
C'est aussi pour ça qu'il est dans cette émission, dans les grandes clubs du sport. Parce que nous aussi, nous pensons. Non, pas du tout. Merci Christophe. On te retrouve dès 14h sur RMC pour la première étape, donc entre Florence et Rimini. Nous allons vivre ces trois semaines magnifiques sur RMC, ces trois semaines de Tour de France. Et on espère évidemment que Pogacar ne va pas tout plier d'ici 4 jours. Nous allons accueillir un grand gagnant. Comment s'appelle-t-il ? Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Allez.
Bonjour.
Comment tu t'appelles, mon cher grand gagnant ?
Je m'appelle Maxence.
Maxence, merci d'être avec nous. Alors, tu as remporté, ça y est, tu es le premier gagnant de cette émission, 2 places dans la caravane du Tour de France avec Tourtel Twist. Et tu peux choisir parmi 4 étapes. Est-ce que tu connais ces étapes ? Tu veux que je te les compte ?
Je veux bien parce que non, je les connais pas.
Alors, mercredi 10 juillet, c'est une arrivée à Saint-Amand-Montrond. Le vendredi 12 juillet, c'est une arrivée à Pau. Le mercredi 17 juillet, une arrivée à Super Dévoluy. Et le jeudi 18 juillet, une arrivée à Barcelonnette. Qu'est-ce qui t'intéresse ?
Elles m'intéressent toutes. On peut pas toutes les avoir ?
Alors, tu peux pas. Alors, c'est pas le jeu, malheureusement. Enfin, pour moi, tu pourrais toutes les avoir, mais tu ne peux pas. Je te laisse réfléchir, mais comme ça, là, au feeling, ce serait quelle étape plutôt ?
Peut-être la première ou la dernière.
Okay. Ok, je regarde. Attends, je regarde si c'est une bonne étape. Je vais te conseiller aussi, parce qu'on est là tranquillement. Ouais. Bah Super Dévoluy, c'est une arrivée en montagne. Ça peut être pas mal. Il faut faire. Hein, si vous l'avez jamais fait, franchement, une arrivée du Tour de France en montagne, c'est vraiment quelque chose à faire une fois dans sa vie. Voilà, si vous n'avez pas de Rolex. Merci beaucoup, Maxence, et bravo. Tu as été le premier gagnant sur RMC pour le Tour de France avec Tourtel Twist.
Merci. Jouez et gagnez sur RMC votre place pour une étape du Tour de France au cœur de la caravane Tourtel Twist. La bière sans alcool, 0,0%.
Allez, les grandes gueules du sport continuent. On met le vélo de côté car nous avons un débat caché à faire. Ça ne concerne donc pas le vélo, mais il y a beaucoup d'autres sports. Ça va vous plaire, j'en suis sûr. Vous avez forcément des choses à dire sur ce débat caché. Vous ne savez rien pour l'instant, mais dans 2 minutes, vous saurez tout. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Cyril Linette, Pascal Duprat, Ludovic Duchesne, Fred Weiss ce matin. Encore 25 minutes de bonheur, de plaisir. À partir de midi, les paris RMC. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Les GG contre-attaque. Les GG ont proposé chacune un débat. Et pour l'instant, Fred Weiss est en train d'écrabouiller la concurrence avec sa draft NBA et ses 3 Français dans le top 6. À toi d'être convaincant et à toi de les convaincre aussi, évidemment, avec ton débat.
Oui. Je vais le faire.
Très bien. Je te sens convaincu.
Oui, je suis convaincu.
Là, on demande que ça. Dominer le monde du basket.
En plus, je sais que Cyril, toi, tu es un passionné de basket, donc je vais réussir à t'entraîner avec
totalement.
Moi.
Allez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre sur l'émotion, tout de suite s'emparer d'un sujet et y répondre. Bien. Ce serait mieux. Le guet-apens du jour. C'est ça.
C'est fini ! La Géorgie réalise un authentique exploit en se qualifiant pour les 8e de finale de l'Euro avec cette victoire 2-0 face à l'équipe du Portugal.
Ah, certains disent que l'Euro commence enfin aujourd'hui avec le début des 8e de finale. Suisse-Italie ou encore Allemagne-Danemark à suivre sur RMC après 2 semaines de compétition. C'est vrai, seulement 8 équipes sont éliminées. La formule à 24 équipes instaurée à l'Euro 2016 divise. Mais elle permet, c'est vrai, à des plus petites nations, vous venez de l'entendre, d'évoluer à des sphères, des altitudes inédites pour elles. On pense à la Slovénie, à la Roumanie, à la Slovaquie et donc aussi à la Géorgie. la formule de l'euro, est-ce qu'elle est vraiment cata, selon vous? Oui ou non, Cyril Linette?
Oui.
Cata. Ludovic Duchesne?
Non.
Pas cata.
Non.
Pascal Duprat?
Non.
Non. Je m'attendais à plus de oui. Fred Weiss?
Non.
Non plus.
Ah, Cyril.
Cyril, tu es tout seul, tu commences.
Elle est, je n'ai rien contre la Géorgie et les petites équipes, entre guillemets.
Ça commence mais, pas.
Et surtout pas la Géorgie, d'ailleurs, qui pour moi a été la vraie attraction de ce premier tour. Mais passons à 32. C'est pas le problème d'être à 24. Ou à, c'est le problème de la formule avec les meilleurs troisièmes. Les derniers matchs du premier tour ont été scandaleux, on peut le dire. C'était n'importe quoi, le Belgique-Ukraine. C'était, on a vu des matchs grotesques. Dans ce cas, passons à 32. Je suis pour, moi, l'élargissement. C'est pas un souci, mais faisons des groupes de 4 équipes avec 2 qualifiés pour qu'au moins le premier tour ait un enjeu à la Coupe du Monde. Mais ça va être fini. On va passer à 48 pays. Ce sera la même chose. On va se retrouver avec des équipes. Il sera impossible d'éliminer une grosse équipe au premier tour. Je rappelle que ce qui a fait le sel des dernières Coupes du Monde, c'est le fait que l'Italie, depuis 2006, se fasse taper tous les 4 ans au premier tour, que l'Allemagne se soit fait éliminer au premier tour, que l'Espagne se soit fait éliminer au premier tour. Ça ne pourra plus arriver. Donc évitons ces formules alambiquées où personne n'est éliminé. Mais je ne suis pas du tout contre l'élargissement aux petites équipes. Entre
ok, mais la formule
tout.
À 24. Mais,
trouvant un nombre qui corresponde au nombre de qualifiés en 8e ou en 16e.
Voilà, c'est ni fait ni à faire. Ludovic Duchesne.
Non, je ne sais pas si c'est une question de chiffres ou quoi que ce soit, mais non, pour plusieurs raisons, puisque on a vu émerger des petites nations, et c'est ce qui a fait le sel de cet euro. Quand on parle du dernier match, ben, je pense que non, justement, puisque la Géorgie a été battre le Portugal, et c'était un super match. La Slovénie, dans son groupe avec l'Angleterre, a fait 3 matchs nuls et resté invaincu. L'Albanie a marqué un point. Les Albanais, avec leur population, ils ont mis une ambiance incroyable.
Pardon, est-ce qu'on regarde vraiment l'euro pour ça, quoi?
Mais oui, quand Albanie-Croatie, voilà, c'est des matchs super intéressants. Et s'ils ont accroché ces grosses nations, ça veut bien dire qu'ils méritent d'être ici. Mais alors après, il faut les premiers, il faut les derniers. Je sais plus quel
c'est intéressant parce qu'on aime les petits poussés, parce qu'on aime qu'il puisse se passer des choses. C'est parce que moi, en tous les cas, c'est comme ça que j'aime le sport.
On l'aime bien une fois, quoi.
Mais non, c'est intéressant.
Non, mais Jean-Christ, tu l'aimes pas suffisamment.
Sauf que l'évolution de dire que les grands ne pourront plus perdre. Et ne pourront plus être éliminés, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aime bien cette possibilité que les grands puissent être éliminés. Que les petites équipes puissent perdre.
Donc, on dit la même chose.
Moi, j'aime le sport, on est d'accord.
Donc, on dit la même chose. Donc, c'est pas un problème d'élargissement, c'est un problème de grille à 24. Les Pays-Bas qui finissent 3e du groupe, ont meilleur tableau que la France, ils ont fait un premier tour catastrophique. Je sais plus quelle équipe se qualifie avec 3 points, alors qu'il y a une équipe, c'est l'Ukraine, je crois, qui est éliminée avec 4 points. Ça n'a aucun sens. C'est le retour des quatre. Il n'y a plus aucun enjeu.
Si tu mets 4 équipes, au bout de 2 matchs, c'est filmé. Donc, parce que ça voudra dire que tu mets une équipe probablement plus faible encore. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire que le foot européen regorge de nations qui rattrapent leur retard. Okay. Et des nations qui ont l'emblème de leur pays sur le cœur, qui ont envie de défendre leur nation
dès
la première minute.
Oui, on en parle parce qu'ils sont troisième. Sinon, normalement, dans un euro classique, ils seraient éliminés.
Mais vous, en fait, les équipes qui ont été décevantes sur ce premier tour, ce sont les grandes nations.
Ah oui. Mais pourquoi? Okay. Est-ce que c'est pas la faute de la formule?
Non,
je crois pas.
Le championnat d'Europe version 2024, je suis désolé de vous dire qu'il est de bon niveau. Les matchs sont de bonne facture. Donc arrêtez de dire c'est pas bon. Vous regardez pas les matchs. Donc vous pouvez dire que c'est pas bon. Moi je les regarde tous. Et c'est très bon. La Géorgie c'est très bon. La Roumanie c'est très bon. Les amis suisses c'est très bon.
Il
y a pas de claque, les gros ont été nuls, globalement, ils sont tous qualifiés. Justement, vous dites la même chose que moi.
Non, la Croatie, c'est quand même la Croatie sont éliminés.
Ce qu'on a vécu ces 20 dernières années en Coupe du Monde avec des éliminations, je le dis à nouveau, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, même de la France, même si c'est un peu
plus vieux, ce qui rendait le premier tour sexy.
Ça n'arrivera plus, il n'y aura plus aucun danger pour les grosses équipes. C'est pas la question de ne pas valoriser le travail des petites équipes, au contraire, c'est de donner un minimum d'enjeux aux grosses équipes pour qu'elles se bougent au premier tour, ce qu'elles n'ont pas eu à faire.
Donc,
parce que je suis pas sûr que ce soit un avantage de finir deuxième plutôt que premier ou troisième. Voilà, tout ça, c'est une histoire de règles à calcul. On n'a même pas compris comment les 4 meilleurs troisièmes étaient attribués.
C'est le nombre de points, et ensuite, c'est les confrontations.
Non, mais
directes,
par exemple, c'est des formules alambiquées qui ne riment à rien. C'est pas une question d'élargissement.
T'as pris l'exemple de la Géorgie, je pense que c'est un magnifique exemple. C'est un petit pays, il y a 3,7 millions d'habitants. C'est un sélectionneur français. T'as l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment qui va sans doute venir au Paris Saint-Germain. Alors je me lance parce qu'il y a Kvaratskhelia qui fait des choses merveilleuses sur un terrain de foot avec Miko Tadze. On a découvert le gardien Mamardashvili qui a 23 ans, qui est aussi un vrai phénomène. Donc c'est vraiment intéressant. Là, je reconnais le côté entraîneur de Pascal, mais c'est passionnant de voir ces équipes.
La Suisse, attendez,
c'est passionnant. Quand il y avait un Euro, quand il y avait une Coupe du Monde et qu'il n'y avait pas forcément les meilleurs troisièmes, il y a toujours une équipe qui sort du chapeau. Je parle de la Corée du Sud en 2020, en 2002. Et on était très contents de les voir. L'un n'empêche pas l'autre.
Absolument.
C'est juste que quand il y a quasiment aucun éliminé, les gros, ils nous offrent une bouillie la plupart du temps au premier tour.
Fais un championnat à quatre équipes, tu prends les quatre meilleurs européens là dessus. Tu donnes le titre comme ça.
Comme il y a 30 ans, mais c'était inintéressant.
Ça s'appelle la Ligue des Nations.
Il faut être un minimum réaliste. C'était un peu le thème de mon débat. Et je suis content d'entendre le thème de Fred. Il est beaucoup plus positif, sincèrement. Mais globalement, le football de sélection, enfin, quand on suit le foot toute l'année et qu'arrive la trêve internationale, on est tous à se dire oh là là, quel ennui, mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder pendant deux semaines.
Je peux pas te laisser dire ça.
Tout le monde se dit ça.
Je peux pas te laisser dire ça, Cyril.
Pascal, laisse-moi juste finir ma phrase. Pourquoi ? Mais toi, parce que tu analyses techniquement les matchs, effectivement. Mais qu'est-ce que se disent les gens ? Quel risque y a-t-il aujourd'hui pour une équipe dans un éliminatoire ? Tout le monde va se qualifier. Donc, les instances, à force de multiplier les matchs, les compétitions, le nombre de qualifiés aux compétitions font qu'il n'y a plus d'enjeu pour les grandes équipes aux éliminatoires. Moi, j'ai connu un temps où il fallait, pour se qualifier à l'Euro, il fallait éliminer les Pays-Bas, l'Irlande et la Belgique, pour l'équipe de France. Aujourd'hui, tout le monde sait que la France va se qualifier et tous les grands pays. Et c'est le cas aussi au premier tour. Donc, à force de multiplier ce type de formule, on rend quand même, à part pour l'œil technique du technicien Pascal et pour un peu d'exotisme, on
tu sais qu'à un moment donné, pendant le match France-Pologne, c'est-à-dire le troisième match, tu sais qu'à un moment donné, la France pouvait être éliminée. À un moment donné, la France, parce que si le
on était déjà qualifié avant de jouer.
Mais qui est trop
on pouvait
match.
Terminer troisième en revanche, qui nous aura arrangé parce qu'on se serait retrouvé de l'autre côté.
Qui est trop de matchs, c'est une certitude. Le calendrier qui en plus met de plus en plus de matchs sur une saison, ça c'est un vrai souci. Que les joueurs arrivent aussi en fin de saison, ils ont une préparation plus ou moins courte, mais ils viennent de faire une grande saison de championnat, donc ils sont un peu plus fatigués et c'est normal. Mais je trouve que au contraire de Cyril, il n'y a rien de plus haut que le football de sélection. Il n'y a rien de plus fort que le football en sélection.
Plus au niveau du jeu, déplace les pays.
Mais si le Paris Saint-Germain gagne avec des champions, t'as tous les Parisiens qui vont être contents. Mais si on est champion d'Europe dans quelques jours, c'est toute la France qui sera dehors.
Juste vous faire écouter quelque chose et après Pascal, tu pourras conclure parce que tu voulais reprendre la main. Hier, conférence de presse de Will Steel, nouveau coach de Lens. Il a été intronisé. Lui le Belge, on lui a demandé si l'Euro c'était pas mal. Voici son avis.
J'ai regardé beaucoup de matchs. Après, on va pas se mentir, on s'emmerde un peu. C'est pas ouf l'Euro. Donc, non, j'espère que sur la phase à élimination directe, ça va s'emballer un peu.
Pascal.
Mais en fait, il dit ça parce qu'il ne regarde pas, parce qu'il prépare sa saison avec Lens. Il peut pas ne voir les matchs et puis en même temps préparer sa saison. Donc voilà, c'est toute de la com, c'est nul ça.
Il a fait un bon.
Je suis désolé.
Les matchs
sont de bonne facture, quoi qu'on en dise. Et je voulais vous parler du calendrier, le calendrier qui est démentiel. Les effectifs des clubs aujourd'hui ont 35 joueurs. Si on les utilisait mieux tout au long de la saison, peut-être qu'on n'aurait pas des joueurs qui arrivaient soufflés au championnat d'Europe. C'est une question de gestion des effectifs.
Voilà,
au contraire. On nivelle par le haut parce qu'il y a de plus en plus de bons joueurs de football.
Et si l'UEFA et la FIFA élargissent les compétitions, c'est pas pour le bienfait des petites équipes, c'est pour des raisons électoralistes. Parce
financière
que ça permet
et économique.
Surtout. Ça, on verra. Parce qu'à un moment, les diffuseurs vont se dire, finalement, c'est pas trop regardé. Les audiences sont pas extraordinaires de l'euro. Dans tous les pays, loin de là, c'est pour des raisons électoralistes.
Avoir le plus de voix.
Ça fait plus de voix.
Ok. Allez, on reprend la main. Bon débat caché, les copains. Bravo. Voilà, c'est important de faire ce débat dans l'entre-deux-tours, j'ai envie de dire, cette circonstance en ce moment.
Oula. Ton parti pris. Il est regottable. Tu devrais être neutre.
À 9h30, j'ai pris Evelyne sur le paletot sur mon débat rugby. À 11h46, je prends Pascal Dubras. Donc, c'est pas facile. Allez, à tout de suite sur RMC, les GG contre-attaque. Fred Weiss, la draft NBA. C'est lui qui a gagné. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h49 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Ludovic Duchesne, Pascal Dupraz, Cyril Linette, Fred Weiss. À partir de midi, les paris RMC évidemment autour des huitièmes de finale de l'Euro avec Suisse-Italie ou encore Allemagne-Danemark, aujourd'hui, mais également le Tour de France. Qui va remporter le Tour, la Dream Team des paris à partir de midi. Mais tout de suite, c'est au GG de jouer.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat de la part des GG. Vous avez pu voter depuis de nombreuses minutes, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. Et c'est sans appel. Hein, la dernière place pour Cyril Linette, 15% pour le foot de sélection.
On vient de le faire, donc ça va.
Exactement. C'est dire que c'est intéressant. Ouais, c'est 17% pour Gasly Ocon. La guéguerre continue. Bon, troisième, Pascal, c'est pas mal. Médaille de bronze.
Ouais, mais bon, de toute façon, c'est truqué, j'en ai marre.
24%, Deschamps a-t-il perdu la main?
Ouais, j'avais gagné le dernier, donc je suis un peu déçu, mais. Oui. Mais je suis impatient d'écouter Fred.
Demain, on parlera, on se demandera si Didier Deschamps joue sa place face à la Belgique.
Ouais,
hein.
Intéressant.
Ok, ce sera à partir de 10h. Mais c'est vrai que c'est Fred, avec la draft NBA, cette semaine, qui a gagné. Parce que cette semaine, oui, mercredi soir, il s'est passé ça encore.
The Atlanta Hawks select Zachary Risache. From Lyon, France, and France's JL, Boron-Brest.
Encore un Français numéro 1 de la draft. Tu voulais nous en parler, Fred Weiss, à toi de jouer.
Alors je voulais en parler parce que je suis en train de vivre une période incroyable. Le basket français est en train de vivre une période incroyable. L'année dernière, on a le premier choix de la draft qui n'était jamais arrivé. Ce qui arrive très peu fréquemment quand c'est pas un Américain. On a le numéro 7 de la draft et on se dit c'est une draft incroyable, ça ne pourra pas se reproduire. L'année suivante, on a le numéro 1 de la draft. On a le numéro 2 de la draft et on a le numéro 6 de la draft. Et c'est là que je me dis que on est en train de montrer que la France a une formation, on a des joueurs, a une capacité à créer cette envie chez les Américains qui n'existe pas dans les autres pays, qui n'existe pas en général et qui est en train de dominer la formation pour l'instant dans le monde entier. On a des joueurs qui sont choyé par des franchises américaines, ce qui n'existait pas. Moi, je viens de cette génération où être drafté en NBA, c'était déjà un miracle. Y jouer, c'était impossible. Et quand en plus on y jouait et qu'on était Tony Parker, c'était devenu notre dieu vivant. On avait tous une statue de Tony Parker chez soi. Et là, ce que Tony Parker a fait, on a l'impression qu'on peut le revivre avec tellement de joueurs. On a tellement de joueurs qui sont sur le point d'arriver en NBA, qui sont formés. L'année prochaine, on parle d'un Nolan Traoré drafté aussi dans le top 14, ce qu'on appelle le lottery pick.
Et pourquoi c'est, Fred en a autant de réussite alors?
Ben justement, j'allais venir. On a cette formation. Faut arrêter de dévaloriser notre formation. Faut arrêter de dire que nous, les Français, on sait pas faire, que le basket c'est pas notre truc, que c'est les Américains. Les Américains viennent de signer un partenariat avec la Ligue nationale de basket pour justement superviser, scouter et travailler avec les jeunes joueurs français. Il faut se rendre compte de ce qu'il en est. Le basket, c'est être numéro un de la draft en NBA. C'est quelque chose qui n'est pas comparable dans d'autres sports parce que c'est leur sport, c'est leur domaine privilégié. C'est un peu comme si on avait en NFL un numéro 1 de la draft. C'est quelque chose d'incroyable. Hier, je discutais avec Stéphane Risacher, donc le papa.
L'illustre papa. Vice-champion olympique comme toi en 2000.
Exactement, avec qui j'ai eu la chance de jouer à Malaga. On discutait un petit peu par message et à un moment, je lui ai envoyé un message vocal. Et donc, bien sûr, je l'ai félicité. Bien sûr, je lui ai dit que j'étais fier pour lui. Et je me suis mis à pleurer, en fait. Je me suis mis à pleurer parce que pour un mec comme moi, vivre les années basket qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. Thierry Roland avait dit, maintenant on peut mourir tranquille. Je vous le dis aussi, les yeux dans les yeux.
Ouais, attends,
je peux mourir tranquille. Alors, le plus tardivement possible,
attends,
évidemment. Mais là, on a une équipe. On va bientôt avoir une équipe incroyable.
Voilà, c'est ça.
Et
attends,
mon regret, ça. Mon principal regret, c'est que Paris arrive trop tôt.
Ouais, mais
j'aurais rêvé qu'on puisse faire ça à Paris. Je pense qu'on va dominer le monde d'ici très peu de temps.
Mais c'est pas grave, Paris, ça peut permettre de prendre date et ça peut être objectif.
Bien
de
sûr,
Los Angeles,
mais est-ce qu'on parle d'un cas à Paris, ça aurait été quelque chose, un impact incroyable.
Mais ils ne seront pas les gamins à Paris, hein.
À Paris, non, il y aura Wembanyama et Koulibaly, ouais, donc ceux qui ont été draftés l'année dernière, mais pas les nouveaux. On a une génération, des générations qui arrivent. C'est-à-dire que tous les ans, on aura des joueurs bien placés dans la draft. On va dominer le monde, je vous le dis, les yeux dans les yeux aussi.
Ok, et aller taper les Américains à Los Angeles, ça peut être un beau défi aussi,
Je signe évidemment tout de suite, mais encore une fois, la connotation Paris, c'était incroyable.
Mais dominer le monde, ça veut dire être meilleur que les Américains, c'est possible.
Médaille olympique.
C'est vraiment possible.
C'est possible. Oui, c'est vraiment possible.
Médaille d'or.
Bravo, Fred. On a déjà eu l'argent. On a déjà fait des choses. Là, l'étape qu'on est en train de franchir, le fait qu'on soit cette génération, ce peuple, ce basket qui domine, grâce à la draft, dans quelques années, on sera les meilleurs.
Un dernier mot, Fred, sur Zachary Risacher. On l'attendait haut dans la draft, mais peut-être pas numéro un. Et c'est vrai qu'il arrive un an après Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, j'ai fait beaucoup d'émissions avant sa draft. On en a fait pendant 6 mois, des tonnes. Et Zachary Risacher, rien. Est-ce que pour lui, c'est bien qu'il n'ait pas été mis autant en avant à son arrivée, alors que, mais on peut le regretter aussi pour lui, parce que c'est-à-dire qu'il aurait pu devenir déjà une star en France, et c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il est passé quasiment inaperçu.
Alors, objectivement, pour connaître très bien la famille, c'est des gens qui sont très simples, qui prennent ça avec beaucoup d'humilité. Lui, c'est pas son truc d'être une star. Lui, il va être le meilleur joueur possible. Et il le sera, ouais. Sera un très bon joueur. Tout le monde dit que cette draft est beaucoup plus faible que celle de l'année dernière. Il faut déjà jamais insulter le futur, d'une part. Et ensuite, effectivement, je trouve que c'est un peu regrettable de pas avoir parlé autant de Zachary Risacher, d'Alex Sarr, hein, qui est quand même deuxième de la draft aussi, mais Wembanyama est un phénomène et des phénomènes comme ça, il n'y en a jamais.
Voilà, c'est aussi pour cette raison que... Oui, Pascal, tu voulais dire en deux mots ?
Ouais, je voulais simplement dire que Fred, on ressent ta passion et je t'en remercie. T'es passionné de ton sport et tu transmets ça de manière magnifique. Bravo.
En plus, il déteste le basket, tout le monde le sait.
Mais je regarde les matchs, Pascal.
Merci Fred, merci de Pascal, basket. Merci Cyril, merci Ludovic. Merci, on se retrouve
merci.
Demain en direct d'Angers à l'occasion des championnats de France d'athlétisme, avec notamment, ce sera le moment fort de la journée, Renaud Lavillény qui va tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il y aura des invités, Teddy Tamgo, Mélina Robert-Michon, Romain Barras. Voilà, ce sera demain à partir de 9h30, donc soyez bien présents au rendez-vous. Dans quelques instants, les paris RMC autour de l'Euro et du Tour de France. Allez, à tout de suite sur RMC.